Chapitre 32. C'est l'heure d'aller promener Bella, annonça Bobby en s'engageant dans une petite rue sinueuse, juste au nord de la statue du Minuteman au centre de Lexington. Paul Schwepp avait indiqué qu'il habitait au 58. Bobby repéra le 26, puis le 32. Il allait bien dans la bonne direction. Le quartier a l'air sympa pour se dégourdir les jambes. Annabelle prit la chose aussi bien qu'il s'y attendait. Ah ah ah, très drôle. Je ne plaisante pas. C'est une enquête officielle. Alors vous feriez mieux de me nommer shérif adjoint, parce que je viens. Le 48, là, la maison blanche de style colonial avec la façade de briques rouges. On n'est plus franchement à la grande époque du Far West, vous savez. Vous avez lu les derniers articles sur les fusillades en ville? On s'y serait cru. Bobby se rangea dans l'allée. Il fallait prendre une décision, passer 10 des 30 minutes que lui avait accordé Schwepp à parlementer avec Annabelle, ou bien la laisser suivre et recevoir de Didi un autre sermon sur les bonnes pratiques policières. Il était encore sous le coup de l'agacement causé par sa dernière conversation avec Didi, ce qui ne plaida pas franchement en faveur du commandant. Il ouvrit sa portière et ne dit pas un mot lorsqu'Annabelle lui emboîta le pas. Le capitaine Sinkus a retrouvé Charlie Marvin, l'informa-t-il pendant qu'il s'approchait de la porte. Marvin a passé la nuit au foyer de Pine Street Inn, de minuit à 8 heures du matin. 9 sans-abris et 3 employés s'en sont portés garants, alors je ne sais pas qui est venu dans votre immeuble avec ce cadeau, mais ce n'était pas lui. Annabelle ne répondit que par un grognement. Charlie Marvin faisait sans aucun doute un bon suspect dans son esprit. C'était certes un étrange croisement urbain entre un prêtre et le Père Noël, mais il avait l'avantage de ne pas être son père. Bobby aurait aimé dire qu'il ne croyait pas non plus que le père d'Annabelle était revenu d'entre les morts, mais il était plus perplexe à chaque heure qui passait. Monsieur Petracelli leur avait donné une poignante leçon sur la force de l'obsession. Bobby allait demander à un collègue de se renseigner sur l'endroit où se trouvait Monsieur Petracelli la nuit précédente, même si, pour être tout à fait honnête, déposer des cadeaux emballés dans des bandes dessinées était sans doute un poil trop subtil pour quelqu'un qui avait de toute évidence perdu la boule. Le croquis était la clé de l'énigme, conclut Bobby. Qui Russell Granger avait-il connu et pourquoi s'était-il senti menacé près de 2 ans avant de porter cette première plainte? Bobby avait compris au bout de 5 minutes d'entrevue avec Walter Petracelli que l'ancien voisin d'Annabelle ne connaissait pas la réponse à ses questions. Peut-être ferait-il meilleure pioche avec l'ancien patron de Russell qu'il avait appelé ce matin à 7 heures devant chez Annabelle. Ces derniers temps, il avait l'impression de passer sa vie à jongler avec son portable. Et pourtant, il était tellement occupé que Didi agissait dans son dos. Interroger le médecin légiste était une tentative à peine voilée pour conforter sa propre théorie sur l'affaire. Cette seule idée le mit à nouveau en colère. Bobby trouva le heurtoir, stratégiquement placé au milieu d'une immense couronne de baies rouges. 3 coups et 1/2 douzaine de chutes de baies plus tard, la porte s'ouvrit. Première impression de Bobby sur Paul Schwepp, environ 5 centimètres de plus que Yoda et 2 ans de moins que Mathusalem. L'ancien directeur du département de mathématiques du MIT, petit et ratatiné, avait des cheveux gris clairsemés, un cuir chevelu parsemé de taches de vieillesse et des yeux bleus chassieux qui vous regardaient par-dessous des sourcils blancs broussailleux. Son visage s'affaissait sous le poids des ans, d'où les paupières bordées de rouge, les bajoues flasques et les plis de peau qui battaient autour de son cou. Schwepp tendit une main noueuse et attrapa le bras de Bobby avec une poigne d'une fermeté inattendue. « Entrez, entrez, content de vous voir, enquêteur. Et vous êtes ?» Il s'interrompit brusquement et ses yeux tombants s'agrandirent. « Nom d'un chien, vous êtes le portrait craché de votre mère. Annabelle, c'est ça ? Une bien grande fille. Nom d'un chien, je vous en prie, entrez, entrez. Bon, eh bien, en voilà un honneur. » « Je vais nous chercher un petit café. Oh, puis zut, il doit bien être midi quelque part. Je vais nous chercher du whisky. » Schwepp partit vivement en traînant des pieds, passa du vestibule voûté au grand salon. De là, un autre passage voûté menait à la salle à manger, où un virage à droite le conduisit à la cuisine. Bobby et Annabelle le suivirent à travers sa maison, et Bobby remarqua les tissus à fleurs surchargés, les napperons en dentelle délicats, les festons d'eucalyptus qui ornaient le haut de rideaux mauves qui descendaient jusqu'au sol. Il espéra qu'il y avait une Madame Schwepp quelque part, parce que si Monsieur Schwepp avait fait lui-même la décoration, il y avait de quoi se flinguer. La cuisine était rustique, avec des placards en chêne et une grande table ovale en noyer. Au centre de cette table, sur un plateau tournant, du sucre, du sel et toute une petite pharmacie. Schwepp tripatouilla la machine à café et passa dans l'office, d'où, après beaucoup de bruit de verre, il ressortit avec une bouteille de Chivas Regal. Le café va probablement avoir un sale goût, annonça-t-il. La patronne est décédée l'année dernière. Elle savait faire du café. Personnellement, ajouta-t-il en posant le Chivas au milieu de la table, je recommande le scotch. Annabelle le regardait avec des yeux ronds. Il sortit 3 verres. Lorsqu'Annabelle et Bobby déclinèrent, il haussa les épaules, se versa 2 doigts et les avala cul sec. Un instant, son crâne vira au rouge vif. La respiration sifflante, il se mit à tousser et Bobby voyait déjà son témoin lui claquer entre les doigts. Mais l'ancien professeur se remit et frappa son torse rabougri. « Je ne suis pas un gros buveur, » leur dit-il. « Mais, vu les circonstances, j'avais besoin d'un petit remontant. »«
Vous savez pourquoi nous sommes là ?» demanda doucement Annabelle.
« Laissez-moi vous poser une question, jeune demoiselle. Quand votre cher père est-il décédé ?»«
Il y a près de 10 ans. »
« Il a tenu aussi longtemps, tant mieux pour lui. »«
Où ?»«
En fait, on était revenu à Boston. »« Vraiment ? Intéressant. Et si vous me permettez cette question, comment ?»«
Fauché en pleine rue par un taxi. »
Schwepp leva un sourcil blanc touffu, hocha la tête pour lui-même. « Et votre mère ?»
Annabelle hésita. « Il y a 18 ans. Kansas City. »«
Comment ?»«
Mauvais mélange. Alcool plus calmant. Elle s'était mise à boire entre-temps. Je l'ai découverte en rentrant de l'école. »
Bobby lui lança un regard. Elle avait déjà donné plus de détails à Schwepp qu'elle ne lui en avait jamais fourni à lui. « Dommage collatéral, » observa Schwepp terre à terre. « Assez logique. On y va ?» dit-il avec un geste vers la table. « Le café est prêt, mais je maintiens que vous devriez essayer le scotch. »
Il retourna à la cuisine, disposa la cafetière, les tasses et le pot à lait sur un plateau. Bobby le lui prit sans demander, principalement parce qu'il ne voyait pas un homme de 50 kilos soulever un plateau de 5 kilos. Schwepp le remercia d'un sourire. Ils arrivèrent à la table. Bobby avait la tête qui tournait. Annabelle pâlissait à vue d'œil.
« Vous connaissiez mon père ?» commença-t-elle. « J'ai eu l'honneur de diriger le département de mathématiques pendant près de 20 ans. Votre père y a travaillé pendant 5 de ces années. Vraiment pas assez longtemps, mais il y a laissé son empreinte. Il était dans les mathématiques appliquées, vous savez, pas les mathématiques fondamentales. Il avait un excellent contact avec les étudiants et un grand sens de la stratégie. Je lui disais souvent qu'il devrait renoncer à enseigner et travailler pour la défense.
« Vous étiez son supérieur ?» clarifia Bobby pour mémoire.
C'est moi qui l'ai engagé sur la chaude recommandation de mon bon ami, le docteur Gregory Baddington, de l'université de Pennsylvanie. Ça ne pouvait se faire que comme ça, vu les circonstances.
Attendez un instant. Bobby connaissait ce nom.
Gregory Baddington de Philadelphie? Oui, monsieur. Greg y a dirigé le département de mathématiques de 72 à 89, il me semble. Il est décédé il y a quelques années, anévrisme. « Je prie pour avoir autant de chance. »
Schwepp hocha vigoureusement la tête, sans la moindre trace de sarcasme.
« Donc, Gregory Baddington était l'ancien directeur de Russell Granger, » dit lentement Bobby. « Il a recommandé Russell pour votre département, et en même temps il lui a permis d'emménager dans sa maison d'Arlington avec sa famille. Pourquoi donc le docteur Baddington aurait-il fait une chose pareille ?»« Greg avait fait ses études à Harvard, » répondit Schwepp. Il avait toujours aimé Boston. Quand il est devenu évident que la famille de Russell devait quitter Philadelphie, Gregory n'a pas demandé mieux que de leur filer un coup de main.
Le vieux professeur se tourna vers Annabelle. Il serra la main de la jeune femme entre ses doigts couverts de taches de vieillesse.
« De quoi vous a-t-il mise au courant, ma belle ?»«
De rien. Il n'a jamais voulu que je m'inquiète, et après il était trop tard. »«
Jusqu'à la découverte de la tombe de Matapane, » conclut Schwepp. J'ai vu ça aux nouvelles. J'ai même hésité à appeler moi-même la police quand j'ai lu votre nom. J'étais pratiquement certain que ça ne pouvait pas être votre cadavre qu'on avait retrouvé. Je pensais que c'était cette autre petite fille, celle de votre rue.
Dori Petracelli.
Oui, voilà. Elle a disparu quelques semaines après votre départ. Ça a failli tuer votre père. Malgré tous ses plans, Russell n'avait jamais vu ça venir. Quel terrible fardeau à porter. Après ça, je peux comprendre qu'il ne vous ait jamais rien dit. Quel père veut que sa fille apprenne qu'il lui a sauvé la vie en sacrifiant sa meilleure amie? Des choix vraiment épouvantables, pour une période vraiment épouvantable.
« Monsieur Schwepp, » commença Annabelle. Monsieur Schwepp, interrompit Bobby qui jouait maintenant du stylo en s'efforçant désespérément de tout noter. Le vieillard rabougri sourit.
« J'imagine que je ne vais pas aller faire cette conférence, » dit-il.
Il prit le scotch, en versa dans son verre et l'avala d'un trait. Puis il commença son récit depuis le début.
« Votre père, Roger Grayson, c'était son nom à l'époque, avait perdu ses parents à l'âge de 12 ans. Ce n'était pas quelque chose dont il aimait parler. Ce n'était pas par lui que j'ai appris dans quelles circonstances, mais seulement par Greg, qui avait eu vent des commérages dans son département. Une histoire de violence conjugale, malheureusement. Russell, enfin, Roger, je suppose.
Russell, appelez-le Russell, intervint Annabelle. C'est sous ce nom que je pense à lui. Ses lèvres se tordirent, elle sembla essayer ces mots.
Roger Grayson. Roger, je t'en prie, n'y va pas.
Elle fronça les sourcils, grimaça et répéta plus fermement.
Russell.
Va pour Russell. Donc la mère de Russell a essayé de quitter son père qui ne l'a pas trop bien pris. Il est revenu à la maison un soir avec un pistolet. Il a tiré, tué sa femme, puis retourné son arme contre lui. Russell était à la maison cette nuit-là. Son petit frère aussi.
Frère ? S'exclama Annabelle déconcertée. Le stylo de Bobby se figea au-dessus de son calepin.
Deux frères Grayson ?
Il repensa au croquis, à la ressemblance avec la description qu'ils avaient du père d'Annabelle, et soudain tout commença à prendre sens. Schwepp hocha la tête.
« Frère, vous avez un oncle, ma belle, même si je suis certain que vous n'avez jamais entendu parler de lui. »«
Non, jamais. »«
C'était la volonté de votre père. » Non, sans raison. Après la fusillade, Russell et son frère Tommy ont eu la chance d'être admis à l'école Milton Hershey pour les enfants défavorisés. Déjà à l'époque, les deux garçons étaient très prometteurs à l'école, et l'internat de l'Institut Hershey correspondait parfaitement à leurs besoins. Scolarité rigoureuse dans un charmant cadre bucolique. Votre père y obtint des résultats exceptionnels, mais pas Tommy, de 7 ans son cadet. Dès le début, il présenta des signes de troubles psychiatriques. Déficit de contrôle de l'agressivité et des impulsions. Hyperactivité, troubles réactionnels de l'attachement. Je m'intéresse à ces questions. J'ai travaillé à la mise au point d'un modèle statistique pour aider les professionnels dans l'évaluation des jeunes enfants. Mais ce n'est pas le sujet.
Schwepp balaya sa propre digression d'un geste de la main et poursuivit plus énergiquement.
Votre père obtint rapidement son diplôme et fut reçu à l'université de Pennsylvanie. C'était un étudiant hors pair et il devint le chouchou de Grégory. Sur ses conseils, Russell s'inscrivit simultanément en licence et en maîtrise et commença sérieusement à envisager de passer un doctorat en mathématiques. Entre-temps, il tomba amoureux d'une jolie étudiante de l'école d'infirmières et il épousa votre mère pendant son doctorat. Ce fut à peu près à cette époque que Tommy quitta l'Institut Hershey. Sans autre famille, il se tourna vers son frère. Et ne voyant pas d'autre solution, votre père le prit chez lui. Pas une situation idéale pour un nouveau marié qui jonglait entre sa jeune épouse et des études prenantes, mais on fait ça pour sa famille. Tommy trouva un boulot de plongeur dans un restaurant du quartier. Il travaillait le soir comme videur et faisait les 400 coups dans la journée. Russell le fit libérer 3 fois sous caution pour des délits mineurs, rixes, drogue, alcool. C'était toujours de la faute de l'autre, d'après Tommy. C'était l'autre qui avait commencé. Pour finir, votre mère prit un soir Russell à part et lui confia qu'elle avait peur. 2 fois, elle avait surpris Tommy à l'épier dans sa chambre pendant qu'elle se changeait. Et 1 fois, alors qu'elle prenait sa douche, elle était presque sûre qu'il était entré dans la salle de bain. Quand elle avait prononcé son nom, il avait paniqué et s'était enfui. C'en était trop pour votre père. Lui-même s'en était sorti à la force du poignet. Tommy pouvait en faire autant. Russell mit donc son jeune frère dehors. Juste à temps, semble-t-il, parce que quelques semaines plus tard, votre mère découvrit qu'elle était enceinte. Tommy, malheureusement, ne partit jamais vraiment. Il débarquait sans crier gare à des heures indues. Parfois, Russell était là. Souvent, non. Votre mère, Leslie, Lucille, comme on l'appelait alors...
Bobby griffonna rapidement le nom, tout en regardant les lèvres d'Annabelle former ce mot.
Lucille. Lucille Grayson.
Il se demanda ce que ça lui faisait d'entendre le vrai nom de sa mère pour la première fois après toutes ces années. Mais Schwepp parlait encore et ne leur laissait guère le temps de spéculer.
Devint si inquiète qu'elle laissait toutes les lumières éteintes et le volume de la télé au minimum pour donner l'impression qu'il n'y avait personne à la maison.
Sauf que Tommy continua à se présenter, généralement dans les 10 minutes qui suivaient son retour de l'hôpital. Leslie, votre mère, finit par être convaincue qu'il la suivait. Russell en parla à son frère, lui dit que ses enfantillages devaient cesser. Désormais, Tommy n'était plus le bienvenu dans leur vie. S'il se montrait encore, Russell appellerait la police. Peu de temps après, des cadavres d'animaux mutilés se mirent à apparaître devant leur immeuble. Des chats écorchés, des écureuils décapités. Russell était convaincu qu'il s'agissait de Tommy. Il s'adressa à la police. Elle ne pouvait pas faire grand-chose sans preuve. Russell mit une alarme chez lui, ajouta des chaînettes de sécurité, installa même une lampe à haute intensité avec détecteur de mouvement devant la porte d'entrée. Leslie accepta de ne plus rentrer seule à pied du travail. Russell l'accompagnait et allait la chercher. Gregory se souvenait d'avoir un soir retrouvé Russell assis dans son bureau, les yeux dans le vague. Quand Gregory avait poliment toqué à la porte, Russell lui avait dit « Il va la tuer. Mon père a tué ma mère. Tommy va détruire ma femme. » Gregory ne savait pas quoi dire. La vie continua et quelques mois plus tard, Leslie accoucha. Tommy avait disparu dans la nature. Russell ne savait pas où et il s'en fichait. Il adorait être un jeune père. Tous les aspects de la paternité le ravissaient. Votre mère et lui se posèrent et profitèrent de la lune de miel qu'ils n'avaient jamais eue. Jusqu'à ce que... Tommy réapparaisse, compléta calmement Annabelle. « Vous aviez 18 mois, expliqua Schwepp. Par la suite, Russell apprit que la seule raison pour laquelle Tommy avait disparu, c'était qu'il avait fait de la prison pour voie de fait. À la minute où il avait été relâché, il avait repris là où il en était. Sauf qu'il ne s'intéressait plus à Leslie. C'était vous qu'il voulait. La première fois, il a alpagué Russell et Leslie dans la rue. Il rentrait du parc avec vous dans la poussette, en pleine journée. Dès qu'il a aperçu Russell et Leslie, Tommy a traversé la rue et s'est mis en travers de leur chemin. « Comment allez-vous? Quel plaisir de vous voir, c'est ma petite nièce. Oh, elle est magnifique !» Il s'est emparé de vous avant que Russell puisse faire un geste, il vous faisait des gousi-gousis. Russell a essayé de vous reprendre, Tommy s'est détourné. D'après Russell, il avait une lueur mauvaise dans le regard. Russell était terrifié. Il ne savait pas si Tommy allait vous embrasser ou vous jeter sous les roues d'une voiture. Naturellement, Russell le caressa dans le sens du poil. Leslie aussi. Pour finir, ils vous récupérèrent, vous remirent dans la poussette et reprirent leur chemin. Mais ils étaient tous les deux terriblement secoués. Le lendemain, Russell changea les serrures et finança sur ses propres deniers un nouveau système de protection pour tout l'immeuble. Il retourna voir la police, qui fit des recherches sur Tommy, et découvrit ses antécédents criminels. Mais les policiers ne pouvaient toujours rien faire. Après tout, ce n'est pas un crime d'aller voir sa nièce. Ils prirent note de l'inquiétude de Russell, constituèrent un dossier. Russell ressortit du commissariat plus effrayé qu'il n'y était entré. Il finit par parler à Greg de se mettre en disponibilité. Il ne voulait pas laisser Leslie seule avec le bébé, ne serait-ce qu'une heure. Greg le dissuada. Russell venait d'obtenir son doctorat. S'arrêter maintenant serait désastreux pour sa carrière, et comme votre mère ne travaillait plus, il fallait bien que quelqu'un fasse bouillir la marmite. Russell accepta donc de continuer à travailler, et Leslie s'organisa pour que ses parents viennent les voir. Plus nombreux, ils seraient certainement plus en sécurité.
« Oh non !» murmura Annabelle la main sur la bouche. Bobby suivit le fil de ses pensées. On avait dit à Annabelle que ses grands-parents étaient morts dans un accident de voiture. Il pressentait que la vérité serait plus bouleversante qu'un simple accrochage tragique. Schwepp hocha tristement la tête.
« Oh, que si !» Les parents de votre mère arrivèrent, vous emmenèrent en promenade, ne revinrent jamais. Un agent les retrouva côte à côte sur un banc du parc. Tous deux, une balle dans le cœur tirée avec un pistolet de petit calibre. Vous vous promeniez toute seule dans les parages agrippée à un ours en peluche tout neuf. Il y avait une étiquette autour du cou qui disait, affectueusement, « Oncle Tommy ». La police retrouva tout de suite Tommy et l'interrogea sur les meurtres, mais il nia en bloc. D'après lui, il s'était arrêté dans le parc, vous avez donné la peluche, avait brièvement discuté avec vos grands-parents. Tout le monde allait très bien quand il était parti. La police fouilla son appartement, mais en ressortit bredouille. Sans le pistolet, sans aucun témoin ni aucune preuve, la police ne pouvait rien faire de plus. Elle suggéra à votre père de demander une ordonnance d'éloignement. Il répondit que sa mère avait déjà essayé ça. Cet après-midi-là, il alla dans le bureau de Greg pour lui annoncer qu'il avait pris sa décision. Sa famille et lui allaient disparaître. C'était la seule manière, disait-il, d'être en sécurité. Une fois encore, Greg tenta de le raisonner. Qu'est-ce que Russell et Leslie connaissaient de la clandestinité? Comment trouver de fausses identités, de nouveaux permis de conduire, du travail? Ce n'était pas aussi facile qu'au cinéma. Mais Russell n'en démordait pas. Quand il regardait son frère, il voyait son père. Il avait déjà assez perdu à cause de la rage obsessionnelle d'un homme. Il n'allait pas perdre davantage. Et plus il parlait, plus il convainquait Grégory. Ce fut lui qui eut l'idée que Russell et Leslie s'installent dans sa maison d'Arlington. La propriété était au nom de Greg, les factures aussi. Tommy aurait certainement du mal à retrouver Russell et Leslie dans leur nouvelle maison du Massachusetts. Grégory me passa aussi un coup de fil pour m'expliquer la situation. Il se trouva par hasard que nous avions un poste vacant dans le département et nous avons donc mis au point les détails. Russell et votre mère emménageraient à Arlington et j'offrirai à votre père un emploi au MIT. Naturellement, il fallut que je donne son vrai nom, Roger Grayson, à la compta. Mais j'aplanis les choses auprès des bonnes personnes et votre père devint censément Russell Granger, époux de Leslie Ann Granger, parent d'une adorable fillette, Annabelle Granger. Seules les fiches de paie et autres documents financiers disaient autre chose. Nous nous trouvions très malins, mais nous n'avions pas été assez forts.
Tommy les retrouva, conclut Bobby. Annabelle ne disait plus rien. Elle était en état de choc, trop sonnée pour parler.
C'est ce qu'a cru Russell. Il y a eu une affaire dans les journaux peu après leur installation à Arlington, l'enlèvement d'une jeune fille qui aurait pu être votre grande sœur, Annabelle. Tout de suite, Russell s'est inquiété. Il craignait que Tommy ne soit dans les parages à la recherche d'Annabelle.
L'enlèvement de Catherine, dit Bobby. C'était l'œuvre d'un autre, Richard Umbrio, mais la grande ressemblance entre Catherine et Annabelle a dû alarmer Russell, lui faire imaginer le pire. Il jeta un regard vers Annabelle. Et même le conduire à se faire passer pour un agent du FBI, afin d'arriver jusqu'à Catherine à l'hôpital pour la questionner.
« C'est Tommy sur le croquis, » murmura Annabelle. « Mon père a dessiné Tommy pour voir comment Catherine réagirait. »«
Probablement. »
Elle réussit à sourire du coin des lèvres. « Je vous avais bien dit qu'il y avait une explication. » Mais son visage restait blême, creusé.
« Umbrio, Umbrio, » marmonnait Schwepp. « C'est vrai. La police a finalement arrêté cette armoire à glace et l'a inculpée, je m'en souviens à présent. Mais Russell a refusé de baisser la garde. Il s'est mis au karaté, se renseignait de manière obsessionnelle sur les prédateurs. Je ne peux pas imaginer ce qu'il a vécu, d'abord perdre ses parents si jeunes, puis sentir que toute cette tragédie était en train de se reproduire. Je sais qu'il se sentait terriblement coupable de ce que vivait votre mère. » Les rares fois où je les ai vus ensemble à des réceptions, votre père était extrêmement attentionné, d'une gaieté sans faille. S'il pouvait sourire assez largement, parler assez fort, tout irait bien. Votre mère vous aimait, Annabelle,
ajouta doucement Schwepp.
Le moment venu, elle n'a pas hésité une seconde. Russell a surgi dans mon bureau à la fin octobre. Tommy était de retour, il laissait des cadeaux chez vous au nom d'Annabelle, il vous suivait. Russell prétendait que c'était entièrement de sa faute. Il n'avait pas fait les choses assez à fond. Les comptes bancaires, les déclarations de revenus laissent des traces. Ça n'avait été qu'une question de temps. Cette fois-ci, Russell s'était procuré de nouvelles identités pour sa famille. S'était organisé pour troquer votre ancienne voiture contre un nouveau véhicule. Tout le reste devait être abandonné. Partir vite et sans lest, m'a-t-il dit. C'était le secret. Il a même refusé de me dire où vous iriez tous les trois. Quand il est sorti, je me souviens de m'être demandé si vous réussiriez. Ou si j'apprendrais le dénouement de cette histoire au journal du soir. Pendant 2 semaines, tout a semblé bien se passer, et puis, cette petite fille, votre amie, a disparu. Dès que j'ai appris dans quelle rue elle habitait, j'ai su qui était le coupable. D'après votre père, Tommy n'avait jamais bien pris les déceptions.
« Mon père était au courant ? Pour Dory ?» demanda Annabelle avec insistance. « Il vous en a parlé ?»«
Il m'a appelé 3 jours plus tard, » répondit Schwepp. Il m'a dit qu'il avait vu la nouvelle au journal national. Il ne savait pas quoi faire. D'un côté, il était certain que c'était Tommy. D'un autre, s'il retournait voir la police...
Tommy pourrait le retrouver, compléta Bobby. Et vous, monsieur, avez-vous pris contact avec la police?
J'ai laissé des informations anonymes sur la hotline. Suffisamment pour apaiser ma conscience, mais...
Pas assez pour aider Dory Petracelli. Dit Bobby avec un regard appuyé. « Vous déteniez une information vitale. Si vous vous étiez manifesté,
La police aurait recherché Russell et Leslie, expliqua simplement Schwepp. On les aurait ramenés de force dans le Massachusetts, exposés à Tommy. La petite Petracelli était probablement morte. J'ai donné la priorité à la vie qui pouvait être sauvée. La vôtre, Annabelle.
Bobby ouvrit la bouche, mais avant qu'il puisse répliquer, Annabelle lui grilla la politesse.
Allez expliquer ça à monsieur et madame Petracelli. C'était des parents, eux aussi. Ils méritaient mieux que de voir leur fille tenue pour morte, simplement pour que leurs voisins puissent continuer leur vie.
Elle se détourna avec amertume. Schwepp versa un autre scotch, le poussa vers elle, mais elle refusa. Au lieu de cela, elle se ressaisit et son visage prit cet air déterminé que Bobby connaissait si bien.
Une dernière question, monsieur Schwepp. Pouvez-vous me dire mon vrai nom ?